Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Cette semaine a été marquée par l'investiture de Joe Biden à Washington. La Chine s'est réjouie du départ de Donald Trump et de son équipe. On a connu message d'adieu plus diplomatique que celui adressé par l'agence de presse Chine Nouvelle à l'ancien secrétaire d'État il y a quelques jours. Bon débarras après le départ de Mike Pompeo. Le monde ne se portera que mieux. Nouvelle administration donc, mais les nominations dans l'entourage de Joe Biden ne devraient pas être de nature à rassurer Pékin, qui d'ailleurs est sans illusion sur les relations à venir avec le nouveau président américain. La politique étrangère des États-Unis à l'égard de la Chine ne devrait pas être radicalement modifiée. La rivalité grandissante entre Pékin et Washington constituera en effet le sujet géopolitique central de l'actuelle décennie et peut-être même au-delà. La compétition n'est pas nouvelle, mais elle s'est accentuée avec la crise sanitaire liée à la pandémie qui accélère le rattrapage économique de la Chine. Mais l'économie n'est qu'un aspect du duel, regard sur le caractère désormais multidimensionnel et global de la rivalité entre Pékin et Washington à l'occasion de la parution du dernier numéro de la revue internationale et stratégique intitulée « Un duel Chine-États-Unis ?» Nos invités, Sylvie Matelli par téléphone, directrice adjointe de l'IRIS, bonjour.
Bonjour.
Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, bonjour.
Bonjour.
Et Charles Thibault, chercheur à l'IRIS et à la Sorbonne, conseiller scientifique de la Joint European Disruptive Initiative, bonjour.
Bonjour.
Et en studio avec moi, Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS. Bonjour.
Bonjour.
La rivalité sino-américaine était déjà profonde avant l'arrivée de Trump, janvier 2013, face aux membres du comité central du Parti communiste chinois. Xi Jinping déclarait « Nous devons construire un socialisme qui est supérieur au capitalisme et poser les bases d'un avenir où nous gagnerons la position dominante ». Cette ambition est-elle remise en question ou au contraire confirmé avec la pandémie? J'ajoute que le 11 janvier dernier, le président Xi Jinping déclarait « Le temps et la situation sont en notre faveur. Les médias chinois depuis glosent sur le déclin de l'Occident et la montée en puissance de la Chine ». Pascal Boniface, un commentaire?
Oui, alors effectivement, la rivalité va rester le seul point d'accord qu'il y avait sur les questions de politique étrangère entre Biden et Trump concernait bien l'hostilité de la Chine qui était vue comme un rival systémique. Biden ou Trump, il y a un rattrapage économique des États-Unis par la Chine qui d'ailleurs a été accéléré par la crise du Covid-19. Et donc cela crée une angoisse parce que les États-Unis sont habitués depuis 1945 à être la première puissance mondiale, et il voit avec inquiétude et même anxiété et angoisse la Chine les rattraper. Donc c'est vraiment quelque chose qui est largement bipartisan, et je pense effectivement que la rivalité Chine-États-Unis sera l'élément structurant des questions géopolitiques pour les années qui viennent.
Alors on a vu, mais c'est important peut-être de s'inscrire sur l'actualité, être nommé par Joe Biden, Laura Rosenberg comme responsable de la Chine au Conseil national de sécurité auprès du président. Tout cela n'a rien pour rassurer Pékin, pas plus que la nomination de Kurt Campbell comme coordinateur de l'Indo-Pacifique au Conseil national de sécurité. Pascal Boniface, la mentalité de guerre froide est vouée à se poursuivre entre Pékin et Washington?
Oui, guerre froide dans la mesure où on aura certainement des récriminations qui vont porter sur les droits de l'homme, même si en fait la rivalité est plus stratégique que niveau politique. La différence quand même, c'est qu'il n'y a pas bloc contre bloc. Il n'y a pas un bloc occidental uni derrière les États-Unis, et surtout la Chine n'est pas à la tête d'une alliance qui était le cas de l'Union soviétique. Mais aussi l'autre différence, c'est qu'au plus fort de la guerre froide, l'Union soviétique n'a jamais fait mieux que 40% du PIB américain, alors que la Chine est déjà à 70%. Elle ne faisait que 10% en 2001 lorsqu'elle adhérait à l'OMC, et on peut prévoir un rattrapage dans la décennie à venir.
Alors effectivement, Pascal Boniface, vous venez de faire la transition pour moi avec Sylvie Matelli sur les questions économiques. Avec cette question, la guerre commerciale lancée par Donald Trump en 2018, qu'est-ce que l'on peut dire quant à son bilan, Sylvie Matelli? Selon les chiffres publiés le 14 janvier dernier, l'excédent commercial chinois avec les États-Unis a bondi de 7,1% en 2020 à 317 milliards de dollars. Et la Chine, toujours bulldozer de l'économie mondiale, elle pourrait connaître en 2021 une croissance d'environ 8% après avoir évité la récession en 2020.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que la Chine apparaît comme le seul grand pays, la seule économie qui compte dans le monde, qui aura une croissance positive en 2020. Donc ça réduit l'écart avec les États-Unis et ça accélère le leadership de la Chine. Et effectivement, comme vous le rappeliez, la guerre commerciale n'a pas eu les effets escomptés par l'administration Trump, au sens où cette guerre commerciale, alors dans un premier temps, on avait vu le déficit se réduire, mais en 2020, face à une crise comme la pandémie, les Américains ont eu besoin d'importer massivement des masques, des respirateurs et tout un ensemble de produits de la Chine, creusant le déficit commercial. Et là, on est au cœur du sujet, et c'est une autre réponse aussi à la comparaison avec la guerre froide, c'est qu'en période de guerre froide, les économies soviétiques et les satellites de l'Union soviétique et américaine et les pays du bloc occidental étaient complètement déconnectés. Aujourd'hui, entre la Chine et les États-Unis, il y a des intérêts économique extrêmement important. Le découplage, s'il a lieu, prendra beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, entre-temps, l'agressivité, l'offensive peut être plus négative qu'une politique de coopération. Prenez l'exemple des agriculteurs, par exemple. Les Chinois ont besoin d'importer massivement des produits alimentaires. Ils peuvent trouver ces produits alimentaires sur les marchés américains, mais ça suppose de coopérer, de trouver un accord pour amplifier les échanges entre les États-Unis et la Chine.
Alors, pour ce qui est de l'agressivité entre Chine et États-Unis, Charles Thibault, je vous ouvre la parole à propos des questions technologiques. On sait qu'aujourd'hui, la priorité de Pékin est de ne plus dépendre des États-Unis dans certains secteurs stratégiques, en particulier les semi-conducteurs. Comment les choses ont-elles évolué ces dernières années ? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, aussi que la guerre commerciale et technologique déclenchée par Donald Trump a ralenti les objectifs fixés par Xi Jinping de devenir l'un des pays les plus innovants d'ici à 2030 ? Et le pays le plus innovant en 2049, qui correspondra au 100e anniversaire de l'arrivée du Parti communiste chinois au pouvoir. Jean Thibault.
Oui, alors ce qui est toujours compliqué avec la Chine, c'est qu'il y a une grosse part de spéculation quand on analyse un petit peu les grandes tendances qui l'animent, et en particulier au niveau technologique, parce que ces questions étant si stratégiques et la Chine étant un pays aussi opaque en termes de diffusion d'informations, on ne peut que subodorer des tendances à cet égard. Moi, je pense que la guerre commerciale et technologique qu'a engagée Donald Trump n'a pas eu un effet si grave finalement sur le développement de la Chine. Je crois plutôt qu'elle est restée sur une tendance de long terme qui a démarré dans les années 80 de vouloir passer d'un modèle d'atelier du monde finalement et d'importation des technologies américaines en particulier pour les imiter, pour pouvoir produire quelque chose de mieux, à un modèle de développement endogène de ces technologies qui a vraiment pris son essor à partir de 2006 et qui s'est accéléré en 2015 puis en 2017 avec ce grand plan sur l'intelligence artificielle qui aujourd'hui fait effectivement de la Chine un concurrent très sérieux pour les États-Unis, nonobstant effectivement les contraintes commerciales que peut lui imposer les États-Unis.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Alors, Charles Thibault, juste une précision. Lancé en 2015, le plan Made in China 2025 avait pour le moins frappé l'Occident. Pékin se donnait 10 ans pour devenir le leader mondial dans 10 technologies clés. 2025, c'est dans 4 ans.
Oui, tout à fait. Comme je vous le dis, c'est toujours très compliqué. Si on regarde les grandes tendances de publication scientifique et technique, de dépôt de brevets, etc., la Chine, effectivement, est en train de devenir le principal pays d'innovation technologique au monde, ça ne fait aucun doute. Le problème, c'est, vous le savez, le fait de déposer énormément de brevets, de publier énormément sur ces sujets technologiques et scientifiques, ça ne veut pas dire que les publications sont de qualité et qu'elles auront des applications économiques, militaires tout à fait substantielles. C'est là où finalement le chercheur est obligé de se murer dans le silence, à moins de partir dans une spéculation métaphysique qui n'a pas lieu.
Alors, est-ce que l'on peut dire, Charles Thibault, toujours sur cette question, que la polémique autour de la 5G est le reflet de la menace que constitue la Chine pour la primauté technologique états-unienne ?
Oui, effectivement. Alors moi, je pense que la 5G est une question conflictuelle de second ordre parce que c'est à mon avis, une technologie beaucoup moins stratégique qu'on a pu le penser. Ce qui me paraît beaucoup plus intéressant, c'est que c'est le symptôme, finalement, d'une peur, d'une inquiétude très profonde chez les États-Unis de voir la Chine non seulement prendre le leadership technologique, parce que les États-Unis ont fondé en grande partie leur hégémonie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale sur leur prééminence technologique, mais c'est surtout parce que la Chine est capable aujourd'hui, grâce à son niveau technologique, de fissurer le bloc atlantiste, de s'immiscer dans ce grand magma d'alliance des États-Unis dans le monde, parce que ces technologies justement sont très intéressantes et qu'elles intéressent des pays qui, jusqu'à présent, ont pensé assez imperméables à l'influence chinoise. Je crois que c'est ça qui inquiète véritablement les États-Unis.
Alors, on poursuit notre tour de table à propos de ce numéro de la revue internationale et stratégique consacrée donc au duel Chine-États-Unis, point d'interrogation. Christophe Ventura, vous êtes spécialiste de l'Amérique latine. Vous dites que finalement, j'ai pas envie de parler de sous-continent américain, mais voilà, l'Amérique latine, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, finalement, constituent le continent où la rivalité sino-américaine est la plus forte. Et vous rappelez que la Chine est devenue, à partir de 2011, le deuxième partenaire commercial du continent latino-américain, derrière les États-Unis, et le premier, depuis 2015, dans les pays sud-américains.
Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'il faut rappeler que l'Amérique latine est la zone d'influence traditionnelle des États-Unis, zone à partir de laquelle les États-Unis ont construit finalement leur expansion mondiale depuis la fin du 19e et le début du 20e siècle. Et c'est que dans cette zone-là, précisément, la montée en puissance de la Chine est irrésistible, elle est inexorable. Et les Américains, qui étaient très occupés dans les années 2000 avec leur guerre contre le terrorisme, l'Afghanistan, l'Irak, ont délaissé en quelque sorte l'Amérique latine, qui par ailleurs à l'époque vivait des bouleversements politiques très importants avec un virage à gauche notable. Et la Chine finalement a pu entrer en Amérique latine alors qu'elle était un partenaire tout à fait modeste de cette région, à peine 10 milliards de dollars d'échanges commerciaux au début des années 2000, avant que la Chine entre dans l'Organisation mondiale du commerce. Aujourd'hui, on est passé à 315 milliards en valeur d'échanges entre l'Empire du Milieu et les pays latino-américains, et donc sur le plan commercial, sur le plan financier, et puis progressivement sur le plan géostratégique, même militaire, puisque la Chine aujourd'hui eh bien fournit de nombreux pays en armement léger et aussi en système plus abouti, plus sophistiqué, satellitaire, etc. De nombreux pays, petit à petit, la Chine est entrée en Amérique latine au point de devenir, comme vous l'avez dit, eh bien le premier partenaire commercial de l'Amérique du Sud, des principaux pays sud-américains, du Brésil, de l'Argentine. Désormais, depuis l'année dernière, la Chine est le premier partenaire commercial de l'Argentine, détrônant le Brésil. C'est historique aussi à l'échelle latino, au point que, depuis quelques années, et même depuis l'époque de Barack Obama, la Chine a été identifiée comme un défi, premièrement, hégémonique pour Washington au niveau international. Puis, sous l'ère de Trump, la Chine est devenue une menace pour la sécurité nationale américaine. Et puis, sous l'ère de Biden, les choses ne changeront pas, puisque Biden a clairement expliqué, vous l'avez dit aussi, la Chine est un thème bipartisan aux États-Unis. Biden considère que la Chine eh bien est un rival systémique pour les États-Unis, ça c'est très clair. Et donc, il considère qu'il s'agit de battre ce rival pour le futur. Il faut gagner la compétition contre la Chine, ce sont les mots de Biden. Et lui, la différence, c'est qu'il préconise une différence stratégique avec Trump, consistant finalement à reconstruire des alliances et un front uni avec les alliés américains pour contenir cette puissance chinoise. À commencer par l'Amérique latine, puisque nous allons voir que c'est cette stratégie-là de reconstituer un front uni des alliances avec les pays latino-américains que va offrir Biden en échange d'endiguer la Chine du point de vue commercial, financier, technologique notamment.
Alors, plusieurs choses pour aller plus loin sur cette question latino-américaine. D'abord, la position chinoise, elle s'est développée, vous le dites, au détriment de l'Union européenne. Plus grave tout de même, il s'est fait aussi ce développement de la position chinoise, et vous l'avez évoqué rapidement, au détriment des géants latino-américains. On pense bien sûr au Brésil, alors c'est peut-être le fruit aussi de rivalités au sein des pays d'Amérique latine. En tout cas, pour les États-Unis, préoccupation immédiate, la relation entre la Chine et le Venezuela, alors que Pékin se soucie de l'évolution des relations entre la Havane et Washington.
Tout à fait. Alors, parce que le Venezuela, c'est le point d'appui principal de la Chine en Amérique du Sud. C'est le pays qui concentre, enfin, qui accueillit la plus grande partie des aides, des prêts financiers de l'État chinois pour les pays latino-américains, c'est au Venezuela. La Chine finance le Venezuela, et évidemment, avec l'arrière-pensée des ressources pétrolières et le gaz et l'or aussi que détient ce pays, qui en détient les principales ressources, en fait, au niveau mondial. Donc la Chine est très impliquée au Venezuela, qui est le pays avec Cuba qui est le plus en confrontation avec Washington. Et à l'inverse, c'est vrai que sous Trump, ce qui s'est passé avec le resserrement de l'embargo contre Cuba, eh bien c'est un problème pour les Chinois, qui comptent bien, pour des raisons économiques mais aussi géopolitiques, continuer finalement à être un allié de ce pays. Donc c'est un enjeu important entre eux. Un autre enjeu pour la Chine qu'il faut signaler, à mon avis, c'est Taïwan. Puisque vous avez quand même 9 pays sur les 14 qui reconnaissent Taïwan dans le monde.
Alors, c'est pas les plus grands, on les cite rapidement, le Belize, le Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Saint-Kitts-et-Nevis et Sainte-Lucie.
Voilà, c'est essentiellement des pays caribéens, on va dire, plus quelques autres. Bon, tout ça nous renvoie à la géographie de la guerre froide, en réalité, puisque c'était les pays qui étaient alliés avec les États-Unis à l'époque. Enfin, cet enjeu est tout à fait géostratégique pour la Chine, donc c'est un point, effectivement, également important. Et vous parliez, est-ce que c'est au détriment des pays latino-américains? Alors ça, c'est toute la question, parce que le deal finalement entre la Chine et les pays latino-américains au début des années 2000 était simple. Les pays latino-américains doivent fournir et sécuriser les approvisionnements en matières premières et en ressources naturelles pour la Chine, en échange de quoi la Chine exporte en Amérique latine des produits de biens de consommation à valeur ajoutée technologique et qui vont permettre à ces pays-là d'ouvrir à la consommation populaire à de nombreux produits, télévision, télécommunications, tout ce qu'on veut, etc. C'était ça le deal. Donc ça a finalement enfermé un peu les pays latino-américains dans leur fonction de producteurs et d'exportateurs de matières premières et de ressources naturelles à faible valeur ajoutée, sans avoir les avantages d'un enrichissement technologique en particulier, ou de diversification finalement de leur industrie. Ça a même désindustrialisé certains pays comme le Brésil ou l'Argentine. Mais c'est peut-être en train de changer, parce qu'aujourd'hui il y a des petits mouvements. La Chine aujourd'hui consent beaucoup plus à investir dans les services ou les énergies renouvelables en Amérique latine, et consent aussi à son tour à faire des transferts de technologie et de former sur place des personnels compétents, des ingénieurs, des techniciens, etc., latino-américains, qui pourraient justement à leur tour finalement capitaliser sur cette relation avec la Chine. Et ça, c'est un des enjeux, si vous voulez, de l'avenir de la relation entre les pays latino-américains et la Chine dans les années qui vont venir.
Et à observer aussi, Christophe Ventura, l'évolution de l'implantation sécuritaire et militaire de la Chine. Vous l'évoquez, depuis 2017, l'Argentine dispose d'une base spatiale et satellitaire en Patagonie, développée par Pékin. La Chine équipe par ailleurs les armées de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Chili, de l'Équateur, du Pérou et du Venezuela, qui est de loin son principal client. Au-delà de tout cela, il y a aussi la question pour l'Amérique latine, une question de choix, parce que faire des affaires avec la Chine, ça n'est pas sans risque pour les pays avec des menaces de répression commerciale et financière des Américains.
Tout à fait, ça a été le message de l'administration Trump pendant 4 ans, que portait en particulier Mike Pompeo à l'époque. C'était en gros, si vous faites des affaires avec la Chine, il y aura un prix. Le prix, ce sera qu'il y aura de la répression commerciale américaine. Nous cesserons tout un tas de programmes de coopération, en particulier avec les pays centra-américains qui dépendent largement des aides financières américaines, qui sont même sous perfusion, pour le dire assez vite, d'aides financières américaines. C'était aussi pour les États-Unis la menace de fermer le marché états-unien aux pays latino-américains qui seraient trop proches de la Chine. On pense au Brésil, on pense à l'Argentine, qui sont des fournisseurs aussi de produits agricoles en particulier et d'acier pour les Américains. Enfin, toujours la même histoire. C'est-à-dire que malgré tout, même si la Chine, sa montée en puissance, elle est irrésistible, les Américains conservent quand même aujourd'hui encore un avantage relatif. Donc pour les Américains, ils sont entre l'enclume et le marteau, parce qu'ils ont besoin aussi d'avoir une relation avec les États-Unis qui reste quand même un partenaire commercial incontournable pour eux. Donc c'est vrai que l'équation est pas simple à résoudre pour les pays latino-américains, et va l'être de moins en moins, à mon avis, dans les années qui viennent.
Pascal Boniface, pour terminer la première partie de cette émission, finalement, l'éviction de l'Union européenne d'Amérique latine, on vient de l'évoquer avec Christophe Ventura, elle se reflète à l'échelle mondiale avec une difficulté pour l'Europe à se positionner dans ce duel entre Chinois et Américains.
Oui, il y a bien sûr une injonction américaine de choisir son camp et de choisir le camp occidental. Et on peut penser que Biden aura quand même plus de facilité à faire ce discours que Trump, qui d'un côté insultait ou traitait les pays européens d'ennemis et en même temps leur demandait une solidarité absolue à l'égard de la Chine. Sauf que si Biden est plus poli, plus courtois et plus multilatéraliste que Trump, sur le plan commercial, il risque d'apporter quelques ennuis aux Européens, de ne pas être plus accommodant. Et notamment, il est peu probable qu'il mette fin à l'application extraterritoriale de la législation américaine, qui est quand même le point majeur de l'atteinte à la souveraineté des pays européens.
Merci Pascal Boniface. On vous retrouve avec Sylvie Matelli, Christophe Ventura et Charles Thibault après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Regard sur la relation entre la Chine et les États-Unis à l'occasion de la parution du dernier numéro de la revue internationale et stratégique intitulée « Un duel Chine-États-Unis ?» Point d'interrogation. Nous retrouvons nos invités Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS, Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, Charles Thibault, chercheur à l'IRIS et à la Sorbonne, conseiller scientifique de la Joint European Disruptive Initiative, et Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS. Sylvie Matelli, on a parlé d'économie dans la première partie de l'émission. J'aimerais qu'on poursuive sur ce registre du statut de la Chine. On prédit le passage dans quelques années de la Chine du statut de pays en développement à celui de pays développé. Cela ne fera pas forcément les affaires de Pékin, et on l'évoquait avec vous dans la première partie de l'émission et Pascal Boniface, le PIB de la Chine rattrapera celui des États-Unis en 2028, voire 2029. En tout cas, c'est plus tôt que ce qui avait été imaginé. Le PIB chinois, pour mémoire, était 7 fois inférieur à celui des États-Unis lorsque le pays adhérait à l'OMC. Sylvie Matelli.
Oui, tout à fait. Alors la difficulté en fait pour la Chine, c'est que à la fois c'est un pays qui est en plein essor, avec un PIB qui va devenir le premier PIB mondial, et avoir un pays en développement qui est la première économie du monde, ça paraît un peu étrange. Deuxièmement, on a aussi une très forte augmentation du niveau de vie des populations dans les grandes villes, ceux qui ont profité de l'essor de la Chine, et ça se traduit par une augmentation du PIB par habitant depuis plusieurs années, qui fait qu'aujourd'hui, si on se cantonne à ce PIB par habitant, la Chine n'est plus un pays en développement, c'est au mieux un pays émergent, voire on se rapproche progressivement des critères de pays développés. Simplement, c'est vrai, vous l'avez rappelé, il y a une Chine qui bloque, qui n'est pas complètement à l'aise avec ce statut de pays développé, parce que ça impose un certain nombre de responsabilités, et ça impose aussi, sur un certain nombre d'accords, un positionnement qui est un positionnement de pays développé, donc de pays qui a de l'argent et qui doit financer. On est toujours dans cette difficulté pour les Chinois d'accepter ça, surtout qu'il y a une partie de sa population qui reste quand même extrêmement pauvre dans les régions reculées et au cœur de la Chine, et donc un véritable défi pour le coup de pays en développement dans ce cas-là.
Alors, on parlera du yuan digital un peu plus tard dans l'émission. Charles Thibault, qu'est-ce que l'on doit attendre sur le plan technologique? Qu'est-ce qu'il faut scruter en 2021 dans cette rivalité entre la Chine et les États-Unis?
Je pense qu'il va falloir regarder déjà si la Chine suit ses plans de développement technologique, et notamment les budgets qu'elle a attribués à ces plans, qui sont assez mirobolants. Je pense notamment au plan de développement en intelligence artificielle de 2017, hein, qui comptait un budget de 20 milliards de dollars par an dès 2020 en intelligence artificielle. Il faudra voir si ça a été respecté. Ça devrait passer à 60 milliards de dollars en 2025, hein, juste pour cette technologie, alors que par comparaison, on estime que les États-Unis, eux, sont plutôt autour de 4-5 milliards par an pour la même technologie. Si c'est le cas, ça voudrait dire en fait que la Chine est véritablement capable de dépenser des sommes colossales, hein, colossales pour une seule technologie, et d'un point de vue de développement technologique, ça voudrait dire qu'ils sont capables de rattraper les États-Unis de façon beaucoup plus rapide que ce qu'on avait prévu, et que l'objectif de 2049 de Xi Jinping de devenir la première puissance mondiale, finalement, pourrait être atteint beaucoup plus rapidement que prévu.
Alors, on l'a compris, science et technologie bénéficient en Chine actuellement d'un soutien politique et de moyens financiers sans doute sans équivalent dans le monde. Une chose que j'ai découverte en préparant cette émission, c'est que la Chine a deux clusters scientifiques et technologiques qui figurent dans le top 5 mondial. Le premier, c'est Shenzhen, Hong Kong, Canton et Pékin. Alors que, Charles Thibault, les Américains n'en ont qu'un, c'est la Silicon Valley.
Oui, alors ce sont des regroupements géographiques de grandes entreprises, de centres de recherche. Je suis pas certain que ce soit finalement un critère suffisant pour estimer la puissance technologique d'un pays. Ce qui me paraît tout à fait crucial avec la Chine, c'est qu'elle estime véritablement que la technologie sera le moyen privilégié pour rattraper la puissance américaine et pour se substituer à elle à la tête de la hiérarchie mondiale. Et ça, c'est vraiment un mouvement de très long terme. Ça a démarré, certes, en 78 avec l'arrivée de Deng Xiaoping et son idée de modernisation de l'économie, mais c'est quelque chose d'encore plus ancien, remonte au 19e siècle, aux guerres de l'opium, et à ce traumatisme originel, si je puis dire, de la puissance technologique et militaire occidentale qui met à bas des millénaires de civilisation chinoise. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans l'esprit revanchard et le nationalisme chinois et qui traverse tous les régimes depuis la fin du 19e siècle. Et la technologie, parce qu'il y a une forme d'imitation du modèle américain qui est toujours là, qui sous-tend finalement toujours ses politiques, il faut parier sur le niveau technologique de la Chine pour pouvoir s'ériger aux standards internationaux et finalement prendre le leadership mondial.
Christophe Ventura, dans le duel entre la Chine et les États-Unis en Amérique latine, on l'a évoqué dans la première partie de l'émission, la préoccupation immédiate des Américains, c'est la relation entre la Chine et le Venezuela. Alors que Pékin se soucie de l'évolution des relations entre la Havane et Washington, il va être intéressant de voir la façon dont les choses vont pouvoir effectivement évoluer avec l'administration Biden. Est-ce qu'il y a des indicateurs selon lesquels l'un ou l'autre des deux acteurs pourrait, au cours des prochaines années, évincer l'autre?
Non, alors c'est un point de vue personnel. Moi, je ne crois pas. Je crois que les deux acteurs sont condamnés finalement à coexister d'une certaine manière en Amérique latine. Je pense qu'ils vont devoir se supporter, coexister sous une surveillance étroite, mutuelle. Moi, c'est ce que j'appelle une perspective de coexistence géovigilante. Il n'y aura pas la possibilité pour les États-Unis d'évincer la Chine, dont la montée en puissance va continuer. Les États-Unis sont sur une trajectoire de déclin relatif qui ne va pas s'arrêter. La Chine va monter en puissance, mais je pense qu'aucun des deux pays n'aura ni les moyens, ni en réalité l'intérêt d'évincer l'autre en Amérique latine. Pour les États-Unis, l'Amérique latine doit rester la zone d'influence traditionnelle, le backyard, comme on dit, de la politique étrangère états-unienne. Pour les Chinois, l'Amérique latine va rester un gisement prioritaire de matières premières et de ressources naturelles dont elle a besoin pour son développement et celui de sa classe moyenne, qui est aujourd'hui de plus de 550 millions d'individus en Chine. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on restera dans quelque chose qui obligera les deux puissances, finalement, à s'entendre, ou en tout cas à être présents sans trop marcher sur les pieds de l'autre, une fois qu'on aura stabilisé un petit peu les périmètres respectifs.
Alors, la question des droits de l'homme, vous l'évoquiez rapidement, Pascal Boniface, c'est un dossier à venir de tension entre Pékin et Washington. Au-delà de cela, ça fait un peu deux questions en une. Est-ce que la normalité d'une relation pourra jamais être établie entre les États-Unis et la Chine avec un engagement des deux pays sur des sujets et si oui, lesquels? Est-ce qu'il est possible? Alors, on a vu la réalité de la rivalité à propos de la pandémie, des partenariats dans la recherche scientifique, le climat, gouvernance en matière d'intelligence artificielle. On commence peut-être par la question des droits de l'homme, Pascal Boniface.
Alors, il faut bien voir que ce n'est pas vraiment la question des droits de l'homme qui oppose la Chine et les États-Unis. Elle est bien sûr instrumentalisée par Trump et puis maintenant par Biden, mais quand Nixon établit des relations amicales et voire même une relation stratégique avec Pékin, on ne peut pas dire que les droits de l'homme sont parfaitement respectés par Mao Tse-Tung et Zhou Enlai. Donc là, on voit bien que c'est plutôt un argument. Alors bien sûr, il y a des violations des droits de l'homme en Chine, mais les États-Unis ont des relations tout à fait pacifiées et nourries avec des pays qui les foulent aux pieds. Et il est pour le moins paradoxal que Donald Trump traite Kim Jong-un d'ami et il voue aux hégémoniques Xi Jinping. Donc les droits de l'homme sont instrumentalisés, même si le problème est réel, mais ce n'est pas ça qui motive réellement les États-Unis. Ce qui motive réellement, c'est la rivalité systémique et le rattrapage. Alors en fait, pour répondre à votre question, est-ce que États-Unis et Chine pourront s'entendre? Il faut qu'ils aient pour cela des intérêts communs supérieurs à leur rivalité. Effectivement, le climat pourrait l'être. Mais il faut surtout que les Américains intériorisent le fait que la Chine les rattrape et que ça, ils n'ont pas les moyens de l'en empêcher. Et donc accepter, lorsque l'on est le numéro 1, d'être rattrapé par le numéro 2, c'est toujours douloureux, difficile. Ça n'a jamais, rarement dans l'histoire, été quelque chose d'accepter facilement, et c'est cela qui est problématique. est-ce que les États-Unis peuvent intérioriser le fait qu'ils resteront une puissance majeure, indubitablement, mais peut-être qu'ils auront un rival supérieur à aucun rival qu'ils n'ont jamais connu depuis 1945.
Alors, de cette acceptation, Pascal Boniface, dépend ou ne dépend pas un risque de confrontation entre les États-Unis et la Chine ?
Alors bien sûr, là, par rapport au piège de Thucydide, ce fameux piège qui oppose le numéro 1 et le numéro 2, calqué sur la rivalité entre Sparte et Athènes, depuis il y a la dissuasion nucléaire, qui vient quand même un peu calmer les ardeurs guerrières des uns et des autres. Et donc effectivement, on peut penser que cette rivalité, comme pendant la guerre froide d'ailleurs, entre l'URSS et les États-Unis, il n'y a jamais eu de conflit direct, parce que malgré l'hostilité et la haine qu'ils se vouaient mutuellement, ils étaient restreints par la dissuasion. Et cela marche également entre Pékin et Washington, plus le fait qu'aucun des deux pays ne pouvait prendre le risque de se lancer dans une aventure militaire dont on remarque bien aux États-Unis qu'elles sont rarement une partie de plaisir. Et donc si une guerre en Irak coûte cher aux États-Unis, on peut penser qu'une guerre contre la Chine serait un prix impossible à payer. Donc cela calme les jeux, mais c'est même pour cela qu'on peut parler de guerre froide. C'est que la guerre froide, c'est l'affrontement tous azimuts, sauf militaire.
Sylvie Matelli, à cheval entre, et Charles Thibault, à cheval entre l'économie et la technologie, la question du yuan digital, lequel a fait ses premiers pas. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à terme, ce soit une condition d'accès au marché chinois? Et est-ce que dans la rivalité entre le dollar et le yuan qui se profile, l'avance prise par la Chine dans la monnaie virtuelle lui permettra d'établir des normes et peut-être de prendre là aussi une position de leader, Sylvie Matelli?
Oui, très clairement. Et là, ça vient justement essayer de lutter contre une difficulté que rencontrent les Chinois, c'est la difficulté à faire véritablement monter le yuan comme monnaie internationale. Aujourd'hui, malgré l'essor de la Chine, malgré la puissance économique de la Chine, le yuan ne représente que 4 ou 5% des réserves mondiales de monnaie étrangère. L'euro, par exemple, est beaucoup plus présent et beaucoup plus important. Donc c'est un vrai échec de la Chine, et c'est d'autant plus un échec que ça fragilise la Chine sur les questions d'extraterritorialité, puisque les Chinois sont encore extrêmement dépendants du dollar. Donc partant de là, les Chinois essayent aussi, avec cette monnaie virtuelle, de se mettre aux avant-gardes en fait des évolutions monétaires de ces dernières décennies, et de positionner le yuan comme une monnaie importante. C'est étonnant d'ailleurs que les Chinois, et ça questionne le fait que les Chinois n'aient pas réussi, malgré leurs succès commerciaux, à imposer le yuan comme monnaie d'échange, ne serait-ce que pour acheter des produits chinois. Et donc je pense qu'avec leur monnaie virtuelle, c'est peut-être quelque chose qu'ils essayent de pallier.
Charles Thibault.
Oui, alors sur la monnaie virtuelle, je n'ai pas d'éléments concrets, j'ai une hypothèse. Depuis quelques années, effectivement, la Chine s'intéresse au-delà de la monnaie virtuelle à la technologie blockchain, sur laquelle repose le yuan digital précisément. Et l'intérêt de cette technologie blockchain, c'est de désintermédier les échanges, quels qu'ils soient, et notamment les échanges financiers. Alors voilà, c'est une hypothèse, encore une fois, une hypothèse de travail, mais je pense que la Chine, par le développement de cette technologie, veut non seulement effectivement essayer de contourner l'hégémonie du dollar, mais aussi contourner l'hégémonie des grandes institutions financières et bancaires mondiales, qui sont dominées par le camp occidental. Grâce aux monnaies virtuelles, donc fondées sur la technologie blockchain, encore une fois, il y a cette possibilité justement de se passer d'intermédiaires financiers et donc finalement de court-circuiter le pouvoir de ces grandes institutions sur la finance mondiale, qui est tributaire d'une certaine manière de la position hégémonique des États-Unis qui garantit l'ordre financier mondial. Je pense que la Chine, de ce côté-là, a effectivement intérêt à développer ce type de technologie financière précisément pour passer outre finalement la domination occidentale sur la sphère financière.
Alors, on poursuit sur l'économie avec vous, Sylvie Matelli. Ces derniers mois, alors que les États-Unis étaient en transition électorale, on a vu la diplomatie chinoise redoubler d'activisme pour signer des accords bilatéraux et multilatéraux. Il y a d'abord, en novembre, 14 pays de la région Asie-Pacifique qui ont signé avec la Chine un partenariat régional économique global, baptisé le RECEP, lequel compte des pays alliés des États-Unis. Et puis, plus récemment, fin décembre, un accord de principe sur les investissements a été signé entre la Chine et l'Union européenne. Pékin estime que 2021 est une année d'opportunité à saisir. Dans ce contexte, pas d'adoucissement à attendre de la politique chinoise au Xinjiang et à Hong Kong ?
Non, très clairement, je pense que c'est pas dans leurs objectifs, mais par contre qu'à l'extérieur, ils vont effectivement profiter du fait que, au fond, quand on regarde la situation, ils sont en avance de plusieurs mois sur les États-Unis, c'est-à-dire pour eux, la pandémie est derrière eux, l'économie est déjà dans une situation de relance. Quand on annonce 8% de croissance chinoise en 2021, faut bien voir que les prévisions de croissance américaines sont aujourd'hui à 4%, c'est moitié moins qu'il y a 6 mois, et vont probablement, dans les mois qui viennent, encore s'amoindrir pour 2021. Donc on est véritablement dans un positionnement de la Chine tous azimuts à l'international. Alors sur l'accord de partenariat, je pense que ce qu'il faut retenir, les deux éléments importants, c'est le fait que c'est un accord très large. Seule l'Inde n'y participe pas, et pour des raisons plus politiques économiques, mais le Japon, la Corée du Sud ou l'Australie en sont. Donc ça, c'est un élément qui est quand même fondamental. Ça veut dire que les Chinois et les pays voisins sont capables de découpler des enjeux politiques et des enjeux économiques quand l'intérêt des parties est bien compris. Et sur les accords d'investissement avec les Européens, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a eu toute une période entre 2018 et 2020 où, au fond, le temps se durcissait sur les investissements avec des Européens qui mettaient en place un mécanisme de filtrage pour se protéger des investissements chinois et puis qui, finalement, parviennent à un accord et donc parviennent à des concessions certes minimes, mais qui sont quand même symboliques et intéressantes de la part des Chinois dans l'accueil des investissements européens en Chine.
Alors, Christophe Ventura a beaucoup de choses à attendre de l'administration Biden, qui est déjà très active depuis qu'elle a pris ses fonctions à la Maison-Blanche, c'était mercredi dernier. On sait que Washington a une volonté de bâtir une grande alliance démocratique face à la Chine. L'Amérique latine, évidemment, y a toute sa place.
Oui, l'Amérique latine fait partie des priorités de politique étrangère de Joe Biden. Il l'a mentionné depuis la campagne électorale. Il y a au moins 3 dossiers sur la table. Le premier, c'est de récupérer vraiment prioritairement la main en Amérique centrale. Et puis dans la Caraïbe, c'est vraiment la zone première de l'hégémonie américaine dans la région. Récupérer ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement damer le pion chinois en matière de capacité de financement et de prêts aux économies qui vont être délabrées par ailleurs par ce qui va se passer post-pandémie. Je ne sais pas si le terme est exact parce qu'on ne sait pas où est le poste. Mais en tout cas, il y a un enjeu de reconstruction des économies latino-américaines comme partout ailleurs dans le monde qui est très important. Mais l'Amérique latine est la région la plus touchée au monde par cette pandémie, avec les États-Unis précisément. Donc l'enjeu pour Biden, c'est de faire une offre finalement d'accompagnement à la reconstruction économique qui soit plus attrayante pour les pays latino-américains, et à commencer par les Caribéens, que les aides chinoises. Et il y a déjà une bataille, c'est un front, la diplomatie sanitaire aujourd'hui. Les Chinois ont pris beaucoup d'avance sur les Américains en Amérique latine jusqu'à présent. Est-ce que Biden va réussir à faire des propositions plus attractives? Il propose 4 milliards de dollars sur 4 ans pour les pays centra-américains pour les remettre sur pied en quelque sorte. Il propose aussi de revenir à la doctrine Obama-Biden sur Cuba justement de 2014, même si, ayant perdu la Floride aux élections, eh bien aujourd'hui il fait attention à ne pas trop aiguiser ses droites au sein des démocrates et chez les républicains dans la perspective des élections législatives de mid-term qui sont déjà dans 2 ans, donc il pense comme ça à Biden. Donc ça va être ce qui va déterminer la relation à Cuba, et puis la question vénézuélienne sur laquelle je pense que Biden pour l'instant va avancer à tâtons. Il n'y aura pas, à mon avis, de grande rupture là-dessus. Donc l'offre, elle est financière, elle est dans la manière de gérer des conflits qui ont été durs avec le Venezuela et Cuba. Et il faut pour ça que Biden arrive finalement à proposer aux latino-américains un partenariat global sur des thématiques multilatérales qui lui permettent de revenir en Amérique latine. C'est ça en tout cas sa feuille de route aujourd'hui, tandis que les Chinois, eux, vont continuer à faire des prêts, en particulier pour l'accès aux vaccins, etc. Et ils vont continuer à proposer aux latino-américains des financements pour faire face à l'endettement des pays latino-américains face à la crise du Covid. Donc on va devoir voir dans ce match-là comment se repositionne les Américains en particulier, puisque les Chinois ont pour l'instant l'avantage.
Alors effectivement, question pour 2021, comment la Chine va pouvoir gérer la question internationale de la restructuration de la dette, en particulier celle liée à son projet de route de la soie. On n'a pas parlé de l'Afrique, on n'a pas le temps de le faire, mais il est évident que l'Afrique est particulièrement concernée sur cette question. Très rapidement, Pascal Boniface, en guise de conclusion, si on voulait chercher une date précise pour le début du siècle asiatique, on pourrait avoir la tentation de choisir 2020 ?
Oui, ou 2001, l'adhésion de la Chine à l'OMC, qui a été beaucoup plus capitale que les autres événements. Quand on fait un sondage, tout le monde se dit que la date la plus importante du XXIe siècle a été le 11 septembre. Elle a été spectaculaire, dramatique, mais elle n'a pas structurellement changé le monde. Alors que le fait que la Chine adhère à l'OMC, ça a changé le monde entier.
Merci Pascal Boniface. Je rappelle que vous êtes directeur de l'IRIS. Merci aussi Sylvie Matelli, qui est directrice adjointe de l'IRIS. Charles Thibault, qui est chercheur à l'IRIS et à la Sorbonne et conseiller scientifique de la Joint European Disruptive Initiative. Et Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS, pour donc ce numéro de la revue internationale et stratégique intitulé « Un duel Chine-États-Unis ?» Point d'interrogation. Et Pascal Boniface, je signale votre ouvrage à paraître la semaine prochaine, « Géopolitique de l'intelligence artificielle » aux éditions Erol. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. À samedi.